Et bienvenue sur PFM, l'actualitime. De nos jours, on entend beaucoup parler d'insémination, de FIV ou encore d'adoption. Toutes ces pratiques se réfèrent à la procréation médicale assistée. Ainsi, grâce à ces pratiques, un couple lesbien peut avoir des enfants. Cet enfant ne grandira donc jamais auprès de son père. Sommes-nous donc arrivés dans ces années folles où les papas ne sont plus à la mode? Est-ce que bientôt les femmes pourront faire un bébé toutes seules? Elle a fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman. Installez-vous, nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour parler des PMA et autres techniques de procréation sur PFM 99.9 avec l'actualité. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seul autour de la table, je suis accompagné de Laurine.
Bonjour.
D'Emma.
Bonjour.
De Maëlle.
Salut à tous.
De Chloé.
Bonjour.
D'Élise.
Bonjour.
Et de Sarah.
Bonjour.
Ainsi que moi-même, Thibaut. Donc, vous l'aurez compris, on va parler des PMA. Donc, la PMA, c'est tout ce qui se réfère donc, à la procréation médicale assistée. Notamment que c'est légal en France pour les couples infertiles. Je vous poser tout d'abord cette première question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la PMA? On va faire juste le petit tour de table. Vous me dites juste pour ou contre. Laurine, vas-y.
Moi, je suis pour.
Emma.
Je suis pour aussi.
Maëlle.
Pareil.
Oh, Chloé.
Idem.
Élise.
Pareil.
Sarah.
Pour aussi.
Génial.
Voilà, tout le monde est content.
Tout le monde est pour. Maintenant,
la population.
Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes pour? Je sais pas, qui est-ce qui veut prendre la parole en premier? Maëlle, vas-y.
Bah, en fait, moi, je suis pour, tout simplement parce que ça pourrait aider déjà les couples fertiles. Infertile.
Mais c'est déjà légal, c'est déjà fait pour les couples infertiles.
Oui, mais je veux dire,
là,
après...
on parle pour les couples lesbiens homosexuels ou célibataires.
Ça pourrait, oui, en effet, ça pourrait être bien, tout simplement pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, mais issu de leur gène. Et aussi,
non, ce serait pas leur gène, justement.
Si.
Enfin,
non.
Bah, chez
non,
les couples
pour
lesbiens,
les infertiles,
oui.
pour les infertiles, c'est pas de leur gène.
Non, c'est
pour les
c'est
lesbiens,
dons.
Oui.
C'est à base de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes.
Bah, non, pas, oui, mais pas pour les couples lesbiens, pour les couples lesbiens.
Pour les couples infertiles.
Oui.
Oui, mais là on parle des couples lesbiens et
célibataires.
Oui.
Femmes. Et après, oui, forcément, spermatozoïdes ne risquent pas de l'inventer.
Et du coup, pour les couples lesbiens, oui, ça pourrait être bien pour avoir un enfant avec un petit peu de leur gène quand même. Et pour les célibataires, s'ils n'ont pas envie de faire la démarche d'adoption pour un enfant, parce que c'est aussi possible cette option.
Ouais.
Mais moi je pense que ça pourrait être légal pour tout le monde.
Très bien. Qu'est-ce qui veut prendre la parole ensuite, Chloé? Sarah?
Moi, je pense que si on autorise la PMA pour les couples de femmes, il faudrait aussi légaliser l'adoption pour un couple d'hommes homosexuels. Sinon, les hommes homosexuels ne pourraient pas avoir d'enfants, alors que les femmes, oui.
Justement, en parlant de l'adoption, les conditions pour avoir un enfant, la politique a été plus restrictive dans certains pays, comme la France, pour éviter la marchandisation d'enfants. Par exemple, on est passé de 3500 adoptions à l'étranger en 2010 contre 700 en 2017. Est-ce qu'il faudrait être un peu plus laxiste au niveau de la politique d'adoption?
Pas forcément. C'est bien aussi quand c'est bien encadré, qu'il y a des règles et tout ça, parce que sinon...
Oui, vas-y Chloé.
Ouais, justement, je trouve que le fait qu'ils encadrent bien les conditions d'adoption, c'est bien. Et c'est pour ça que justement, ils devraient, en France, accepter la GPA, justement, pour les couples homosexuels qui, eux, forcément, ne peuvent pas porter l'enfant. Donc, en gros, la GPA, c'est gestation pour autrui. En gros, c'est une mère porteuse, mais sans rémunération. Et donc, je pense que l'adoption doit continuer à être bien encadrée, mais qu'on doit mettre en place une GPA en France aussi pour, justement, les couples homosexuels.
Oui, Sarah.
Moi, justement, je suis plutôt contre la GPA. Je suis d'accord avec la PMA, mais contre la GPA, parce que je trouve que c'est déshumaniser la femme, en faire un peu comme une machine, en fait.
Un
elle devient un objet à concevoir. Donc, je suis plus contre la PMA. Et puis, la GPA, pardon. Et puis, on a déjà vu des cas comme aux États-Unis où, justement, le système de mère porteuse est possible, qu'après, à l'accouchement, la femme décide de changer d'avis, sauf que dans le contrat, ce n'est pas autorisé. Donc, ça peut créer des déchirures. Psychologique. Ouais. Voilà. Donc je suis plus contre la GPA.
C'est aussi interdit en France par la loi de la bioéthique, c'est réprimé donc par le code pénal. C'est remis en cause parce que c'est une remise en cause du principe selon laquelle la femme qui accouche est forcément la mère aussi. Et c'est aussi une prévention sur la possibilité de trafic autour de ces pratiques.
Après je sais pas comment, si on peut utiliser la PMA pour les couples homosexuels aussi.
Comment?
Pour les couples homosexuels, est-ce qu'on peut utiliser la PMA aussi? C'est ça le truc.
Oui, pour les couples lesbiens.
Non, pour les couples homosexuels, pour deux hommes, comment on ferait aussi? Hormis la GPA.
L'adoption.
Mais le problème, c'est que justement, on explique que l'adoption, c'est de plus en plus dur. Donc c'est ça, tu vois. Je suis pas non plus pour le fait de mère porteuse, mais d'un autre côté, je me dis, les pauvres, s'ils ont envie d'avoir un enfant, ils galèrent, alors que des couples hétérosexuels, eux, peuvent le faire facilement. Même s'ils sont infertiles, la PMA est plus... Enfin, un meilleur accès pour eux que pour les autres. Donc
Parce que la GPA, on n'impose pas à la femme de porter l'enfant. C'est de son plein gré.
Elle n'est pas imposée, mais bon.
Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué.
Lauriane, qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet?
Moi, je pense que pour l'adoption, tout le monde aurait le droit d'adopter. Enfin, je vois pas pourquoi les deux hommes, ils n'auraient pas le droit d'avoir un enfant, alors qu'un homme et une femme, ils ont le droit, quoi.
Donc tu serais plutôt pour une politique plus laxiste concernant l'adoption. Emma?
Je suis du même avis que Laurine.
Aussi pour l'adoption.
Très bien. Élise?
Moi, je suis un peu contre que deux personnes du même sexe aient un enfant, parce que pour grandir un enfant, il y a besoin quand même d'une mère et un père, quoi.
D'accord. Justement, on va en parler, de ça, c'est vrai. La société est en train de quand même évoluer pas mal, mais... Un enfant qui grandirait sans son père, ça arrive déjà. Des pères qui ne reconnaissent pas l'enfant. Moi, je connais des gens qui sont dans ce cas-là. Ça pourrait être préjudiciable pour l'enfant, Maëlle?
Il y a des conséquences, forcément, dans l'évolution de l'enfant. Un enfant qui va grandir avec sa mère, il va avoir plus un lien, comme se croire l'homme de la maison. Du coup, il va être plus dans la force, dans la démonstration, dans la violence. Donc, pour la relation à autrui, ça pourrait être négatif. C'est mon avis.
Oui.
Après, si effectivement l'enfant, que ce soit fille ou garçon, vit avec que sa mère, oui, là je peux comprendre que ça lui porte préjudice. Après, s'il vit avec deux pères ou deux mères, moi je me dis que ça peut marcher tout autant, puisque dans les deux cas, il y en a bien. Enfin, chacun auront leur rôle, donc je sais pas.
Pour moi, un enfant, il a juste besoin d'une famille aimante pour s'épanouir. Et un couple de personnes homosexuelles est tout à fait capable d'aimer un enfant. Après, y en a certains qui diront « Oui, mais il va être sujet à des moqueries à l'école parce qu'ils disent « Ah oui, t'as pas de papa ou t'as pas de maman ». Moi, je pense que c'est surtout un travail au niveau des mentalités qu'il faudrait faire avant
de... Parce que Thibaut, tout à l'heure, tu dis que la société évolue, mais au final, on n'évolue pas tant que ça. Hein.
Ouais, c'est vrai.
La société est assez
amenée
à évoluer. Mais tu vois, il y a des personnes qui sont contre. Par exemple, la Manif pour tous, justement. Moi, hier, je suis allée voir, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont contre. Enfin, forcément, dans la Manif pour tous, mais...
Oui.
Là, on a le témoignage de Ludovine de la Rochère, qui dit « Il est cruel de priver volontairement un enfant de père. C'est pour lui une injustice profonde, douloureuse et évidemment durable. » Et elle ajoute que « Père et mère sont irremplaçables et non interchangeables. Deux femmes, aussi aimantes soient-elles, ne remplaceront jamais un père. »
Mais...
Au-delà de la société a évolué, il y a aussi une loi. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui proclame qu'un enfant doit, dans la mesure du possible, connaître ses parents, ses deux parents, et être élevé par eux.
Bah voilà, donc je trouve, donc ça veut bien dire que un enfant a pas forcément besoin d'avoir un père. Dans le sens où tant qu'il connaît ses deux parents, qu'il est deux mères ou deux pères et qu'il est aimé, pour moi ça lui portera pas préjudice. Voilà, c'est l'essentiel. Après, je suis d'accord que pour les mères célibataires qui ont été abandonnées par le père de l'enfant, par exemple, où le père n'a pas voulu reconnaître l'enfant, oui, là, ça peut lui porter préjudice. Parce qu'il ne connaît pas son père, donc il lui manque une partie de sa famille. Mais après, pour deux hommes et enfin pour deux pères et deux mères, je pense que le principal, le principal, c'est qu'ils soient aimés.
Qu'est-ce que tu en penses, Elise?
Je sais pas trop. J'ai plusieurs avis.
Très bien, Emma.
Bah, pour les couples homosexuels, c'est vrai, c'est bien, mais par contre, les monoparentales, par exemple, l'enfant, ça peut être frustrant pour lui de pas savoir d'où il vient ou, par exemple, enfin, ouais, de ses origines, ça peut être frustrant pour lui.
Parce que en cas de divorce, c'est peut-être pas forcément le même contexte, mais il y a soit la mère qui élève, soit le père si y en a un qui refuse la garde. Donc c'est le principe d'éducation est le même qu'un couple monoparental, j'ai envie de dire, non ?
Ouais, Laurine ?
Bah moi je pense qu'un enfant de couple homosexuel, il évoluera peut-être pas de la même façon, mais il sera tout aussi heureux, enfin. Il aura peut-être un esprit plus ouvert, justement.
Ah, vous pensez que ça pourrait faciliter là, l'ouverture d'esprit
Oui, évidemment. Évidemment.
Très bien. Je crois que ça fait déjà quasiment 15 minutes qu'on... Non, Julie me fait un petit nom à la régie. Du coup, on va aussi parler, parce que on parlait du don, parce que la PMA se fait forcément par le don de gamètes. Mmh. Donc j'ai quelques chiffres sur les dons, et en 2015 il y a eu 540 dons d'ovocytes, donc c'est une augmentation de 8% contre 2014, et 255 dons de spermatozoïdes, une augmentation de 7% contre 2014. L'idéal c'est d'avoir 1400 donneuses et 300 donneurs, car un don de sperme c'est 10 couples, un don d'ovocyte c'est 2 couples. Le problème de la PMA, c'est que on pourrait arriver, comme déjà en Chine ou aux États-Unis, à choisir les critères de l'enfant, le sexe, le QI, la couleur des yeux. Ça fait un peu penser au film Bienvenue à Gattaca.
Ouais,
c'est pas une voiture non plus, hein, c'est bon.
Non mais,
voilà.
Non, mais j'avoue. Sérieusement, enfin, c'est pas un enfant, c'est de nos gènes, c'est pas une option, c'est pas non. On l'aime comme il est.
Mais simplement, si la PMA se base sur les dons et grâce à ça, maintenant, les scientifiques arrivent, on peut définir les critères de l'individu. Le sexe, son intelligence, c'est la couleur de ses yeux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que vous craignez pas un peu un risque ?
Si.
Ouais, un peu
si.
Bah, vas-y.
Un enfant un peu clos.
Ça va, ouais, voilà, ça va. On va se retrouver comme dans les films, enfin, j'ai envie de dire. Où,
c'est vrai.
On va se retrouver qu'on va tous être de la même façon. L'enfant parfait.
C'est ça.
Plaire en fait aux autres. Plaire aux adultes. Le regard des autres, voilà. Plus de différence.
Ouais, il manque de diversité.
C'est ça,
ouais,
et voilà. La différence, c'est notre force. Donc je trouve que.
Parce qu'on nous parle assez, il faut faire attention au regard des autres, faut pas se préoccuper du regard des autres. Mais si on commence à tous se ressembler, c'est-à-dire qu'on fait attention au regard des autres, du coup, c'est important.
Qu'est-ce que tu en penses, Laurine ?
Bah moi, je suis d'accord, parce que un enfant, c'est pas un objet. On n'a pas à choisir ce qu'il va être. On l'aime comme il est, quoi.
Bah, surtout si l'enfant, c'est pas un objet commercial. Là-bas, c'est l'union de deux personnes. Faut pas choisir ce qui va être ou quelque chose comme ça. C'est n'importe quoi, je trouve.
Faut vraiment rester dans l'aléatoire complet. Oui. Chloé.
Ouais.
Ouais, ça va.
Après, avec la PMA, comme tu dis, ils déterminent pas forcément. Ils font un taux de...
probabilité, non ?
Probabilité, voilà, exactement. Mmh. Elle n'est pas déterminée. Parce que là, il faudrait agir sur les gènes. Donc, c'est différent. Ils font juste que... Moi, je sais que ma tante a utilisé la PMA parce qu'elle était fertile. Infertile, pardon, justement. Et après, ils choisissent la personne. Ils voient des images et tout pour déterminer un peu le physique. Mais c'est juste après aléatoire. C'est un mélange. C'est comme quand t'as un mari. Enfin, forcément, ce sera un mélange des deux. Vous choisissez pas la couleur des yeux ou
quoi. S'il va plus ressembler au père ou à la mère.
Voilà, on n'est pas encore là dans le trafic de gènes.
Si ça reste comme ça, ça va. Mais si on en vient au trafic de gènes, je trouve
ouais,
ça...
Mais ça, c'est... Par la bioéthique, c'est interdit pour l'instant.
C'est interdit, mais je pense qu'on va y venir.
On y arrivera,
c'est
je pas pense.
Éthiquement,
non.
C'est,
mais
c'est pas possible. Mais la CCNE, elle dira jamais oui pour ça. C'est pas possible. On peut pas déterminer des enfants. À ce moment-là, c'est comme si on créait des objets.
Ouais,
ça déshumanise complètement.
C'est contre la nature.
C'est impossible, oui.
C'est aller à l'encontre de la nature. On dit qu'il faut respecter la nature et tout, le réchauffement climatique, mais si à côté de ça on fait des enfants qui se ressemblent tous, on peut avoir un ou deux sosies, ok, mais là en avoir des millions,
on a sept.
On a sept par an, ouais. Ouais, très bien, on se retrouve après une petite pause musicale pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leur costume de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros. Venga, baila. Mataré los otros.
Bonjour tout le monde, toujours sur l'Actuality Team sur Radio PFM 99.9, toujours entouré de Laurine.
Bonjour.
D'Emma.
Bonjour.
De Maëlle.
Rebonjour.
De Chloé.
Rebonjour.
D'Élise.
Rebonjour.
De Sarah.
Re.
Et toujours de Julie à la régie.
Bonjour.
Très bien, donc Chloé m'a parlé de quelque chose pendant la petite pause musicale. Est-ce que vous pensez que pour les donneurs, donc on en a parlé juste avant, donc les donneurs et particulièrement les femmes pour lesquelles le don est contraignant, donc notamment pour les traitements hormonaux, les suivis médicaux fatigants et ponctions ovariennes douloureuses, est-ce qu'ils doivent recevoir une indemnisation pour leur don? Chloé, vas-y.
Quoi?
Qu'est-ce que j'ai fait?
Vas-y,
ça,
vas-y.
Oui, donc bah, moi je pense que malgré que ça soit un don et que la base du don est basée sur le fait de donner sans recevoir d'argent, je pense que pour ce... Arrêtez, vous moquez de moi. Que je pense que pour ce don en particulier, qui est donc très douloureux, surtout pour les femmes, ils devraient recevoir une indemnisation, mais pas forcément très élevée, mais un minimum. Comment dire? Parce que tout le traitement qui suit et tout ça, ça c'est remboursé par l'assurance maladie. Donc ils dépensent rien pour donner, mais je pense qu'ils auraient quand même droit à une petite indemnisation.
Mais du coup, à ce moment-là, c'est plus vraiment un don, et surtout, ça peut entraîner le commerce d'organes,
oui,
parce que
sinon
tu commences à vendre des cellules. Donc, je sais pas.
Et ce serait
niveau éthique, c'est pas possible. Après, ça, c'est sûr que ça apporterait plus pour les personnes qui en ont besoin, parce qu'on en a vraiment besoin, il en manque en fait.
C'est ça, ça pourrait peut-être donner envie aux femmes de le faire.
Je voyais que c'était suffisant, mais qu'il y en avait tout de même. Si on avait plus, ce serait mieux.
Ouais, parce que moi, personnellement, j'aurais peur de le faire, rien que pour la douleur. Quoi. Donc c'est vrai que peut-être que si je savais qu'il y avait une indemnisation, peut-être que je me dirais bah, c'est pour le bien.
Ouais, mais après aussi, il y a des restrictions. On déconseille aux femmes, tant qu'elles n'ont pas eu d'enfant, de ne pas faire de don. Parce que sinon, après, il peut y avoir une arrivée de stérilité ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai, c'est assez complexe. Donc, je pense que... Après, en plus, si on le fait payer... si on donne plutôt de l'argent, au contraire, je ne sais pas. Pour moi, ce ne serait plus un don et ce serait du commerce.
Maëlle, t'en penses quoi?
Je suis tout à fait d'accord avec l'idée.
Avec l'idée de qui?
De toute l'équipe. Le fait que...
je n'ai point de personnalité, je m'appelle Maëlle.
Non, c'est pas ça, c'est juste que... En effet, ça deviendrait du commerce, et déjà, le commerce d'organes n'est pas autorisé dans le monde entier. Voilà, on s'est battu pendant des années contre les mafias japonaises, italiennes, contre le don d'organes. Donc je vois pas pourquoi ce serait légalisé maintenant.
Ça continue, hein. Dans l'illégal, ils sont...
Ah oui, oui, je sais, mais c'est moins flagrant, on en parle beaucoup moins, ce qui est aussi très dommage.
C'est pas parce qu'on en parle pas que ça existe pas.
Oui,
tout à fait. Mais ce qui est clair aussi, c'est que... ouais, non, ça devrait être... Enfin, c'est interdit, mais ça devrait pas devenir légal. Mais je pense que ce qu'a peur tout le monde, c'est que ça le devienne.
C'est ça. Oui, parce qu'en fait, le fait de donner une indemnisation aux femmes, ça pourrait inviter
à ce que tout
la
monde
légalisation
le fasse.
Du don d'organes, c'est ça. Très loin, mais bon.
D'accord. Laurine, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je suis d'accord. Je pense qu'un don, ça doit rester un don. C'est pas... Enfin, c'est un choix. Ça doit pas être ça doit pas devenir commercial.
Emma?
Bah... D'un côté, hein, l'indemnisation, ça pourrait augmenter les dons. Enfin, je sais pas, ça pourrait augmenter, mais d'un côté, c'est par rapport au trafic, au truc d'organes, c'est pas super.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a quand même. L'idéal, c'est que c'est 1400 donneuses et 300 donneurs, on en est loin. 540 donneuses, enfin, 255 chez les hommes.
On n'est pas loin, chez les hommes, on n'est pas loin de l'objectif. Il
chez
reste
les hommes,
45. Mais
le
par
problème,
contre, femmes,
c'est qu'il faut aussi chez les femmes.
Parce qu'il faudrait faire convaincre la population.
Et il en faut plus chez les femmes, parce qu'un don d'ovocytes, c'est pour deux couples. Donc c'est ça, est-ce qu'il faudrait pas aussi quelque part, tant pis, donner des indemnisations, quitte à risquer un trafic d'organes, non?
Non, je pense pas.
Élise?
Bah, moi je pense pas, mais faudrait en parler plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes non plus qui prennent l'initiative, parce qu'elles connaissent pas forcément.
Ça serait peut-être plus d'informations.
Plus d'informations à la télé.
Une solution, pour que les femmes soient plus informées de ce qui est possible de faire. On peut faire énormément de choses dans les dons, dans les associations, tout ça, mais il y a très peu... Enfin, il y a beaucoup de fois où tout ça ne se fait pas parce qu'en fait, justement, il n'y a pas assez d'informations sur le sujet.
Emma? Non. Maëlle?
Bon, encore une fois, je suis d'accord, hein, mais c'est... Ce qui est... Ouais, ce serait gênant que ça devienne... Enfin, qu'il soit monétisé. Ce serait un trafic. Ce serait du trafic.
D'accord, très bien. Si on continue toujours à parler d'argent, la PMA est remboursée à 100% par l'assurance maladie pour les couples infertiles. Forcément, vu qu'il n'y a que ça de légal. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit... Parce que la sécurité sociale, l'assurance maladie rembourse quand même beaucoup de choses. Est-ce que vous trouvez ça normal que ça soit remboursé en plus, Sarah?
Bah, il faut savoir déjà que c'est seulement les femmes de moins de 43 ans, donc qui ont plus de chances justement que la PMA fonctionne. Après, il faut savoir que ça coûte plusieurs milliers d'euros.
une PMA, donc ça coûte assez cher. Et je trouve ça normal parce que c'est permettre à des personnes d'avoir un enfant et c'est un droit à tout le monde. Donc je trouve ça tout à fait normal que ce soit remboursé. Après, il faut savoir, c'est aussi pareil pour les hommes. Et les médecins n'acceptent pas si les hommes ont plus de 60 ans.
Oui, c'est le chiffre que j'ai vu aussi. Maëlle, t'en penses quoi sur ça? Est-ce que...
La rémunération, la remboursement.
Est-ce que l'assurance maladie doit rembourser à 100% ou est-ce qu'elle doit rembourser moins ou pas du tout même?
Pas du tout, non. C'est bien qu'elle rembourse. 100%, je dirais pas que c'est un petit peu exagéré, mais un petit peu moins, pourquoi pas. Entre 80 et 100%, ouais, ce serait un bon nombre.
Mais si tu rembourses pas, c'est-à-dire que tu paies pour avoir un enfant?
Non, pas ne pas rembourser, mais...
Oui, mais si tu paies,
mais si c'est tu comme rembourses si... à 80%, imaginons voilà. Que le
tu paies 20% ton enfant. Voilà. Gros.
C'est vrai que c'est un peu abusé.
Imaginons
ouais, donc,
que le prix c'est 100 euros, t'imagines, ça voudrait dire que tu payes 20 euros. Ton... Bon, ça coûte pas 100 euros, mais c'est-à-dire que t'as payé 20 euros pour avoir un enfant. Donc,
ouais,
tu c'est vois, vrai. Bah ouais.
Ouais, donc en fait, oui, du coup, avec cette réflexion-là, ouais, on peut se poser la question de. Oui, ça peut. Enfin, c'est
quand même honteux de payer ton enfant. Enfin, t'imagines, ouais. Ton enfant a 10 ans. Au fait, maman, tu m'as payé combien?
C'est vrai que. On se voit mal répondre à cette question.
Ouais, c'est vrai. Élise?
Ouais, bah moi je suis pour qu'ils remboursent totalement parce que c'est juste des personnes qui peuvent pas avoir un enfant d'eux-mêmes.
Très bien. Laurie?
Bah, je suis aussi d'accord qu'ils remboursent totalement parce que tout le monde aura le droit d'avoir un enfant.
Emma?
Moi aussi je suis pour le remboursement total parce que c'est normal si les personnes ne peuvent pas avoir d'enfant. Le fait d'avoir la possibilité d'en avoir une, c'est bien. Donc, ouais.
Très bien.
Et comme ça, ça permet l'accès à tout le monde, pas qu'aux personnes qui possèdent de l'argent aussi.
Voilà.
Et c'est un droit qui doit être à tout le monde.
C'est ça. Parce que sinon, il y aurait une grosse inégalité. Du coup, on verrait en fait à la fin, on se retrouverait avec des. Comment expliquer ? Enfin, plus de riches qui pourraient avoir accès à la PMA et les pauvres qui voudraient avoir un enfant et qui sont infertiles ne pourraient pas.
C'est
ceux qui ont
une inégalité sociale.
Voilà.
Très bien. Et justement, est-ce que vous pensez que la PMA, donc pour les couples lesbiens, donc vous étiez pour, donc est-ce que vous êtes pour aussi la légalisation, sa légalisation en France?
Bah oui, forcément.
Forcément.
Ouais.
Tous ok, pour dire ça. Et à ce moment-là, est-ce que vous voudriez voir aussi cette PMA remboursée à 100% par l'assurance maladie?
Bah oui. Je vois pas pourquoi un couple hétérosexuel aurait le droit à être remboursé totalement et qu'un couple lesbien l'aurait pas.
C'est la discrimination.
Mais ça reste des humains. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, très bien. Vous avez raison. Et pour la GPA, donc on a eu quelques avis contre et quelques avis positifs.
Ouais, c'est
pour,
complexe,
pardon.
La GPA.
Ouais, c'est vrai que.
Parce que du coup, pour sa légalisation en France, qu'est-ce qu'il dit Emma?
Bah, la GPA, je sais pas du tout parce que c'est bizarre quand même d'implanter des. Voilà, c'est étrange.
Ouais,
donc la GPA, je pense pas.
Il faut savoir que déjà à l'étranger. En fait, il y a des Français qui ne peuvent pas avoir d'enfants, bah, par exemple des couples homosexuels, qui vont à l'étranger pour pouvoir faire une GPA.
Oui.
Et donc, déjà, là, ils paient de l'argent, donc c'est déjà réservé aux personnes plus riches. Et qu'après, ça reste illégal, en fait, ce qu'ils font. Mais que, forcés un peu par le tribunal européen, les Français sont la France est de plus en plus forcée à accepter la...
Donner la nationalité aux enfants nés par GPA.
Voilà, ouais. Par GPA et admettre la filiation entre les parents et l'enfant. Ouais. Alors, du coup, pourtant, ça reste un acte illégal.
Ouais, et ça, c'est pas normal. Ouais.
Donc ça, ce côté-là n'est pas normal.
Et
donc, je pense que... moi, qui, comme je suis déjà contre la GPA parce que je trouve ça pas très éthique, je pense qu'il devrait durcir justement la loi sur ça et ne pas accepter la filiation.
Carrément ne pas accepter. Parce qu'en 2015, le pôle médical donc, du Centre National des Soins à l'étranger a recensé 1500 AMP réalisés à l'étranger contre 900 en 2011. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement légaliser la GPA en France, ça ne permettrait pas de ramener les profits des hôpitaux belges et espagnols? C'est-à-dire que la France récupérerait pas les profits réalisés dans les hôpitaux à l'étranger?
Ouais, mais bon.
De l'argent contre une question d'éthique?
Ouais, c'est ça. Économie pour l'éthique, non merci, quoi. Vraiment.
Maëlle, non?
Je me prononcerai pas là-dessus parce que. Je pense que. Enfin, la GPA, c'est. On prend conscience de ce que l'on fait. C'est la femme qui va décider, on va pas lui dire, bon, toi tu viens, on va te mettre un enfant dans le ventre. Non. C'est. Est-ce que vous voulez en avoir un, oui ou non? Elle a le choix, donc moi je pense que quand on a le choix, soit on accepte, soit on n'accepte pas. Donc après, si on accepte, on peut plus dire ah bah non, au bout de 9 mois, non, j'en veux plus.
D'accord. Non, c'est pas pour elle l'enfant.
Non, je sais, mais ouais, elle le porte pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, voilà.
Oui, ça arrive très souvent aux États-Unis qu'une mère porteuse, au moment de l'accouchement, veuille garder l'enfant.
Ouais, et ça, non, c'est pas possible. Bah donc, non, parce que c'est vrai que ça serait.
Et c'est très dur moralement. Hein. Enfin, moi, personnellement, une mère porteuse, je trouve ça.
Ouais, parce que c'est comme si c'était le tien, mais en fait, bah, non, tu vas
ça.
Le donner.
C'est ça, tu le portes pendant 9 mois. Tu sers de machine de production, en fait, quasiment. Tu le sens bouger et tout, et puis au bout de 9 mois, t'accouches, tu subis l'accouchement qui est déjà pas facile, et on te l'enlève des mains, enfin.
Ouais. Mais après, c'est leur choix, elles sont rémunérées aussi. Donc,
Non, la GPA, c'est sans rémunération.
Bah, je connais des gens
aux États-Unis, c'est mère porteuse.
Oui, ils sont rémunérés. La femme, elle a été totalement en accord. Enfin, elle a été payée pour ça.
Après, c'est vrai que c'est leur choix, du coup, c'est un peu. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand même.
Ouais, et Laurine ?
Bah, moi, je sais pas trop parce que, ouais, d'un côté, c'est eux qui décident. On leur a pas, on les a pas obligés, mais d'un autre côté, je trouve pas ça bien de. Enfin, que la femme soit là pour faire des enfants seulement, quoi.
Bah, puis on en revient au fait aussi que les femmes qui, par exemple, je sais pas, une femme qui a 4 enfants, qui est toute seule, le mari l'a, enfin le père l'a abandonnée, elle a très très peu de moyens et elle entend parler de mère porteuse.
Voilà, justement, voilà. Moi ça me fait penser à la prostitution. C'est je ça. Sais pas si vous.
Et elle se dit ah bah de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça si je veux pouvoir nourrir mes enfants. Ouais. Alors elle le fait, et qu'est-ce qui se passe finalement? Elle va souffrir pendant 9 mois, parce que étant donné qu'elle a déjà eu 4 enfants, ou même si elle en avait pas eu, quand tu portes un enfant pendant 9 mois, tu vas pas me dire qu'à la fin tu vas le donner comme ça sans ressentir aucune émotion, c'est pas possible.
Oui, j'avais vu une émission une fois, ils avaient dit justement, bah là encore c'était différent, c'était un couple homosexuel français qui l'avait fait aux États-Unis et qui avait demandé pour avoir les ovules d'une autre personne, donc en plus la femme qui était mère porteuse devait prendre des médicaments pour pas faire de rejet, et donc il faut savoir que c'est quelque chose de très douloureux, tous les médicaments, les piqûres, machin. Et après, oui, moi, c'est ce que je disais, je vois ça comme de la prostitution.
C'est ça. Ouais. Non, je pense que ça. Bah, du coup, on en revient à cette question de trafic. Hein. La GPA, c'est un peu.
Si on interdit la prostitution en France, pourquoi on autoriserait la GPA? Voilà.
Élise, tu vois ça aussi comme de la prostitution?
Bah, moi, je pense que si un jour c'est légalisé, il faudrait faire une loi pour que la mère porteuse puisse garder l'enfant au bout de 9 mois si elle le souhaite.
Mais t'imagines, ça veut dire que les parents, les parents, ils auraient attendu pendant 9 mois en se disant oui, ça va être mon enfant, c'est la mère et tout. Et au final, bah bim, déchirure.
Bah ouais. Donc à la fin, la GPA, elle est mauvaise pour forcément un des camps. Il y en aura forcément un des camps qui sera malheureux, que ce soit les parents ou la mère porteuse. Donc on. Enfin,
on en revient à la même question.
C'est ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant de conclure? Non, en tout cas, juste un dernier mot pour vous dire qu'en ce moment se déroulent les états généraux de la bioéthique. Il vous reste quelques jours pour participer. Donc vous pouvez aller participer sur leur site internet. Il y a plusieurs catégories comme l'euthanasie notamment, entre autres, ou la PMA. En tout cas, c'était l'Actuality Team sur PFM 99.9. Et je remercie Laurine.
Au revoir.
Emma.
Au revoir.
Maëlle.
À la prochaine.
Chloé, au revoir.
Élise.
Salut.
Sarah.
Salut.
Julie à la régie.
Au revoir.
Ainsi que moi-même, Thibaut, merci de nous écouter régulièrement sur l'actualité team PFM 99.9. Au revoir.